hier soir l'anniversaire de leur indépendance, mais sans véritable faste cette année, on en parle.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous ce mardi 14 mai 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 221e jour de guerre contre le Hamas, toujours 132 otages dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, on fait le point d'actualité avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov.
Boker Tov et Chag Sameach. L'État d'Israël célèbre son 76e anniversaire dans une atmosphère mitigée de joie, mais aussi de retenue en raison de la guerre qui se poursuit, mais aussi de l'absence de plus d'une centaine d'otages toujours détenus par le Hamas. Pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'État d'Israël, la cérémonie traditionnelle d'ouverture des festivités du Yom HaTzmaout ne s'est pas déroulée en direct sur le mont Herzl et avec public, mais elle a été enregistrée sans public. Les Israéliens qui ont allumé cette année des flambeaux étaient tous des personnes qui se sont distinguées par leur bravoure le 7 octobre ou par leur action bénéfique pour la société israélienne au lendemain des massacres. L'un des flambeaux a été allumé par la soldate Uri Megedish qui était otage 27 jours dans les geôles du Hamas. Un autre flambeau a été allumé par Iris Raïm, dont le fils otage à Gaza a été tué par erreur par les forces israéliennes et qui depuis fait montre d'une impressionnante dignité. Quant aux familles d'otages et aux opposants du gouvernement, ils ont organisé plusieurs cérémonies d'allumage de flambeaux alternatives, l'une d'elles sur la place des otages à Tel Aviv en présence de dizaines de milliers de personnes sous le slogan « Sans otages, pas d'indépendance ». Et puis plusieurs milliers de francophones d'Israël, avec des Israéliens de souche, se sont rassemblés comme chaque année devant le Kotel, le mur occidental, pour un office de fête à l'occasion du Yom HaTzmaout. À 20h précises, le drapeau qui avait été mis en berne la veille a été hissé en haut du mât et les fidèles ont entonné la tikva avant un office solennel et une prière du Hallel pour remercier le Tout-Puissant de la création de l'État d'Israël. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a diffusé un message destiné aux communautés juives à travers le monde. Dans ce message, le président explique que ce 76e anniversaire est marqué par, je cite, « une douleur et une immense perte, non seulement pour les habitants d'Israël, mais aussi pour l'ensemble du monde juif ». Le président rappelle les exactions commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre, mais également la résurgence de l'antisémitisme qui s'est développée au cours des derniers mois. Le président a tout de même souligné que le peuple d'Israël a su se relever de la tragédie du 7 octobre pour redresser le foyer national juif qu'est l'État d'Israël, un État qui aspire à faire le bien, à rechercher la paix et à effectuer, je cite, un tikkun olam. Dans un message vidéo diffusé hier soir lors de la cérémonie d'ouverture des festivités, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réitéré son appel à la victoire totale sur le Hamas. Monsieur Netanyahou a fait un lien direct entre la guerre actuelle et celle de l'indépendance d'Israël il y a 76 ans. Il y a 76 ans, nous étions seuls, peu nombreux, face à 5 armées arabes qui nous ont envahis. Nous étions pauvres et sans armes, mais nous avions une arme, le Rouar, l'esprit qui nous a toujours animés, qui a animé le peuple d'Israël et qui l'a conduit à toujours refuser de mourir. C'est cet esprit qui nous a permis alors de vaincre et de construire cet État. Le Premier ministre a reconnu que sans les otages et sans le retour des habitants du nord et du sud du pays, ces célébrations ne sont pas entières, mais il a réaffirmé que de nombreuses familles lui avaient demandé au cours des dernières semaines d'aller jusqu'au bout du combat contre le Hamas, comme l'ont demandé les soldats tombés par leur sacrifice. Aujourd'hui, plusieurs cérémonies traditionnelles, comme la finale du concours biblique et la remise des prix d'Israël, se tiendront, mais la parade aérienne de Tzal a été annulée en raison des circonstances. Ce qui, d'une certaine manière, nous ramène à la réalité sur le terrain. La réalité, eh bien, c'est d'abord hier une intensification des opérations de Tzal en divers points de la bande de Gaza. 5 soldats israéliens ont été grièvement blessés au cours de ces opérations dans le nord, dans le camp de Jebalia, dans le centre à Zeitoun et dans le sud, dans la ville de Rafah. Tzal a intercepté hier soir, par ailleurs, un drone offensif ennemi qui venait de l'Est. L'armée a précisé que le drone avait été repéré bien avant son entrée dans l'espace aérien israélien. Il n'a causé aucun dégât. Sur le plan diplomatique, une information importante, l'ONU a décidé de réviser à la baisse et très sensiblement les données qu'elle a fournies jusqu'à présent quant au bilan des attaques israéliennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Selon les données, nouvelles données fournies par l'ONU, le nombre de femmes et d'enfants palestiniens tués a été diminué quasiment de moitié. L'ONU affirme que le nombre d'enfants palestiniens n'est pas 14 500 tués, mais 7 800. Quant au nombre de femmes, il a été réduit de 4 500. Le porte-parole de l'ONU a enfin reconnu qu'il était incapable de vérifier précisément le nombre de victimes. Je vous rappelle qu'à Jérusalem, on répète depuis plusieurs mois que les bilans fournis par l'ONU se réfèrent aux données fausses du Hamas et ne reflètent pas la réalité. En réaction à cette information, le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a appelé à la démission du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Celui qui se réfère à de fausses données pour incriminer Israël n'est rien d'autre qu'un antisémite, a déclaré Israël Katz. Quant à Benjamin Netanyahu, il a affirmé hier soir que la moitié des Palestiniens morts recensés dans la bande de Gaza étaient des terroristes.
Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. La météo, des pluies aujourd'hui un petit peu partout sur l'Hexagone. Seule l'Alsace échappe au mauvais temps. Côté température, 16 degrés à Paris cet après-midi, 21 à Marseille, 23 à Ajaccio. Et puis en Israël, à Jérusalem, 23 degrés, 24 à Tel Aviv, 32 à Eilat.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et merci d'être avec nous comme chaque jour. Et le mardi, c'est la chronique littéraire de Chaim Nissenbaum, de Aleph à Tav. Et ce matin, on parle de ce livre, La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon, d'Éric Nolot, publié aux éditions Léo Scheer. Bonjour Chaim.
Bonjour à tous. Ce petit livre, comme son nom l'indique, est consacré à Jean-Luc Mélenchon. Alors oui, La République, c'était lui, c'est son titre, fait bien sûr référence à cette réplique qu'il eut quand la police est venue perquisitionner dans ses bureaux. Et il est sous-titré « Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon, le ton est donné ». Ajoutons qu'il est écrit par Éric Nolot, qui est écrivain, critique littéraire, et qui est l'auteur de pamphlets précédents très remarqués. Alors, ce livre nous parle de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, il est sorti au mois d'avril, et il nous parle du sort de la gauche et l'analyse véritablement, parce que force est de constater que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup changé. Il a finalement abandonné toutes ses convictions passées. On l'a connu, pour ceux qui se souviennent, en intransigeant républicain. Il est devenu, au contraire, le chantre du communautarisme, d'un certain communautarisme. C'était un grand laïcard, et maintenant le voilà qui soutient l'islamo-gauchisme. C'était un partisan enthousiaste, on l'a peut-être oublié, du traité de Maastricht, qui est devenu europhobe. Il est venu du mouvement trotskiste, et voici qu'aujourd'hui il ne cache pas son admiration pour le régime de Vladimir Poutine, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'apparente davantage au néo-stalinisme. Il a eu l'habileté d'entraîner toute la gauche avec lui, en donnant ainsi la première place au mouvement qu'il a fondé, à LFI, et jusqu'à l'entraîner derrière lui au point que, on s'en souvient aussi, les insoumis ont refusé de reconnaître le caractère terroriste des atrocités commises le 7 octobre par le Hamas. Alors que s'est-il passé ? Bien, Éric Nolot décortique un petit peu toute cette évolution. Et il nous montre, fait à l'appui, élément clair à l'appui, qu'en réalité, la vraie préoccupation de Jean-Luc Mélenchon, c'est essentiellement Jean-Luc Mélenchon, qu'il a toujours eu des opinions qui étaient un petit peu suspectes parfois, ainsi aujourd'hui lorsqu'il parle d'Éric Zemmour, dont on pense ce que l'on veut, mais il tient à son sujet en invoquant son appartenance à la communauté juive des propos que n'aurait pas démenti, comme le souligne Éric Nolot, que n'aurait pas démenti l'antisémite Drumont. Alors, pourquoi a-t-il évolué comme cela ? Bien tout simplement, il s'est refait une carrière, nous dit Éric Nolot. Il était un peu relégué à l'arrière du Parti Socialiste, voilà qu'il a eu une grande idée. Il a pu réapparaître sur le devant de la scène. Alors bien sûr, cela avait un prix. Abandonner, on l'a dit, toutes ses convictions passées. Mais ça ne lui a probablement pas semblé trop cher, puisque voilà ce qu'il a fait. la gauche est partie à la dérive avec lui. Peut-être est-ce tant pis pour elle. En tout cas, c'est un livre très éclairant qui nous permet de mieux comprendre encore ce qu'est le mélenchonisme. Le livre « La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon » de Éric Nolot, publié aux éditions Léo Cher, un livre pour mieux comprendre. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaïm. Et bien sûr, on vous retrouve quotidiennement également en podcast sur notre site internet radioj.fr.
Le 6-9, Hélène Ferradian.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J et nous sommes à présent en direct avec l'avocate Karen Noblinski, en direct d'ailleurs d'Israël. Bonjour Karen.
Bonjour Hélène.
Merci d'être avec nous. Effectivement, vous n'êtes pas en studio assez exceptionnellement, mais vous êtes en Israël à l'occasion de ces jours de fête, Yom HaTzmaout qui succède au Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karen, de l'atmosphère justement au lendemain de cette journée qui a été, qui est très difficile hein, d'ailleurs pour les Israéliens?
Écoutez, comme vous le savez tous, Yom HaZikaron, c'est une journée qui commémore la mémoire des soldats de Tzahal qui sont tombés depuis la création de l'État d'Israël et celle aussi des victimes du terrorisme. Cette année, ça a été un Yom HaZikaron fin juillet, c'est ce qui a été rappelé plusieurs fois lors des cérémonies de recueillement. Ça a été un jour de profonde réflexion et de recueillement, je dirais, pour toute la nation israélienne, pour les Juifs du monde entier. Tout particulièrement pour ce Yom HaZikaron quelques mois après le 7 octobre. Ça a été aussi l'occasion lors de cette cérémonie Place Alima qui s'est déroulée donc le 12 mai au soir, bien évidemment d'entendre les sirènes pour la première fois, cette sirène à 20h et celle qui s'est répétée le lendemain pour 2 minutes à 11h. Et ça a été aussi l'occasion d'entendre de nombreux témoignages, notamment de familles de soldats tombés après le 7 octobre, mais aussi de familles d'otages. Ça a été extrêmement riche en émotions. Il y en a un Yom HaZikaron que nous n'oublierons pas.
Alors, on parle évidemment de cette atmosphère très difficile en Israël. Il y a également ce qui a été très suivi, c'est l'Eurovision hein, le week-end dernier avec la chanteuse Eden Golan, la représentante d'Israël à l'Eurovision, qui a reçu des milliers de menaces de mort, des centaines de personnes qui étaient réunies justement devant son hôtel, et elle s'est fait huer, humilier aussi pendant sa prestation. Comment vous avez observé vous ces événements et qu'est-ce que ça vous inspire, Karen?
Alors, l'Eurovision, cette année, ça a été quelque chose d'horrible que nous avons tous suivi. La chanteuse Eden Golan, elle a reçu des menaces de mort. Il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies devant cette aréna. Elle s'est fait huer pendant sa prestation et on a même vu la vidéo d'elle quelques secondes après où elle s'effondre en larmes tant elle a été courageuse pendant cette chanson. Et Raphaël Antonin nous disait il y a quelques jours une chose, c'était une chose d'apporter son soutien au Gazaoui, mais c'était tout autre chose de demander l'exclusion d'une chanteuse parce qu'elle est juive. Et Eden Golan, elle a fait justement l'objet de toutes ces détestations-là. C'est aussi une femme jeune qui représente une certaine liberté et plus encore, elle représente justement Israël. On est venu dire, en fait, pendant cette Eurovision, qu'Israël n'aurait pas le droit de s'exprimer, qu'Israël n'aurait pas le droit de candidater, qu'Israël n'aurait pas le droit finalement d'exister. Au même titre qu'on va demander à certains sportifs israéliens pendant une JO de ne pas participer. Aujourd'hui, on a voulu museler Eden et elle nous a montré une nouvelle fois à quel point c'était un peuple fort qui a fait figure de résilience où elle arrive aujourd'hui cinquième. Et aussi, Ilana, sur Internet, le cyberharcèlement a été sans précédent lors de cette édition de l'Eurovision. Et c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle nous a montré, en tout cas, cette résilience-là. On a pu observer les images d'elle à son retour à l'aéroport de Ben Gurion, un retour fort et en puissance.
Alors très rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps, Karen, vous souhaitiez aussi réagir à ce qui s'est passé ces derniers jours en France, notamment devant les universités. Vous étiez avec l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, à cette grande table du dialogue qui a été organisée. C'était important pour vous d'y être, Karen?
Oui, évidemment que c'était important d'y être. Moi qui enseigne, moi-même à Sciences Po, ça a été extrêmement difficile de voir ce qui s'est passé. Et en fait, alors que Sciences Po était bloqué et alors que Sciences Po fermait ses principaux locaux ce vendredi 3 mai, et bien l'UEJF montrait un signe fort de dialogue sur cette place de la Sorbonne à Paris, où juste derrière il y avait encore des manifestations houleuses. Non, l'UEJF a tendu la main. Il y avait des gens de toute origine, de toute religion, et nous pouvions dialoguer. C'est ça, cette table du dialogue, l'espoir du dialogue.
Eh bien, merci.
L'espoir de pouvoir échanger, et on espère que l'UEJF pourra renouveler cette proposition qui a été vraiment formidable.
Eh bien, merci beaucoup, Karen Oblinski. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouvera évidemment la semaine prochaine en studio à Paris sur Radio J. À la semaine prochaine.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous, 7h15, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 76e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, Yom HaAtzmaout, marqué par la guerre toujours en cours contre le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à ce que tous les otages rentrent à la maison. Et le président de la Knesset, Amir Ohana, s'est aussi adressé à ses otages lors de son discours. Le président de l'État, Isaac Herzog, lui, a adressé un message vidéo aux Juifs du monde entier. Il a souligné combien ce Yom HaAtzmaout était marqué par d'énormes pertes. Il a évoqué la résurgence de l'antisémitisme qui, dit-il, nous rappelle pourquoi nous nous sommes relevés de la tragédie et avons trouvé la force et la détermination nécessaires pour établir un foyer national, le miracle qu'est l'État d'Israël, a-t-il dit. 100 000 Israéliens se sont aussi retrouvés hier soir sur la place des otages à Tel Aviv pour soutenir les familles des 132 captifs toujours aux mains du Hamas à Gaza. Le rassemblement s'est ouvert avec une prière commémorative de Yitzhar, adaptée au massacre antisémite du 7 octobre. Sur le terrain, Tzahal a annoncé hier soir 5 soldats israéliens en opération contre le Hamas à Gaza ont été grièvement blessés ces 2 derniers jours. Parmi eux, 2 membres de l'unité du génie Yahalom, grièvement touché par des obus de mortier tirés contre eux dans le sud de la bande de Gaza. Le bilan humain des opérations militaires à Gaza revu à la baisse. Selon l'ONU, il y a 2 fois moins de femmes et d'enfants palestiniens tués que ce qu'affirme le Hamas. Au final, il n'y aurait pas 35 000 morts, comme l'a indiqué le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, mais 24 686 Palestiniens tués. La Turquie au chevet des terroristes du Hamas, tout l'Occident les attaque avec toutes sortes de munitions, a affirmé hier le président Erdogan.
Merci beaucoup Eva. Eva, prochain rendez-vous avec l'actualité avec vous, ce sera à 8h. Vous restez bien sûr avec nous sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio
J. Et exceptionnellement ce matin, je ne l'ai pas précisé, mais à 7h30, il n'y aura pas de revue de la presse israélienne. On sera en revanche avec Ethan Meisel, qui a perdu son fils Nitaï à Gaza en décembre dernier. Il nous donnera son témoignage inédit ce matin sur Radio J. Vous restez avec nous dans quelques instants. Freddy Ethan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages également, revient sur Radio J pour sa chronique sur le Yom HaAtzmaout, ses réflexions 76 ans après.
Radio J,
14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le grand journal, une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le grand journal, 14h-15h, à tout à l'heure.
Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Menace menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Lory-Gozlan.
À Cypre-Créteil.
01 43 77 01 70.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et plaisir de retrouver, après, c'est vrai, plusieurs semaines d'absence en raison des fêtes, notamment Freddy Etan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tout en blanc ce matin sur Radio J. Effectivement, blanc et bleu aux couleurs de l'État d'Israël, puisque ça a commencé hier soir les commémorations, les cérémonies du Yom HaTzmaout, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, 76 ans après la naissance d'Israël et malheureusement aussi après les massacres antisémites du 7 octobre ?
Écoutez, Yom HaTzmaout est célébré aujourd'hui différemment des précédents anniversaires. Et au moment où je vous parle, des sirènes retentissent à Ashkelon et dans toute la région. Donc depuis la terrible attaque surprise du 7 octobre, tout a basculé. La guerre d'usure n'est pas encore achevée et nos otages sont toujours prisonniers. Chaque jour, des soldats tombent. Le deuil envahit de nombreux foyers. Le long de la frontière, des maisons sont désertes, certaines en cendres. Cependant, malgré la cruelle douleur, nous n'avons pas le choix de poursuivre le combat, car c'est le contrôle total de la bande de Gaza et de la frontière nord. Notre existence sera toujours menacée. Malheureusement, le juste combat de l'État d'Israël est mal interprété, très mal compris, condamné systématiquement par la communauté internationale. Notre devoir est d'expliquer notre juste cause et d'affirmer avec force que le seul but est de nous défendre, de vivre dans un climat de sécurité absolue et d'aboutir à la paix avec nos voisins arabes. Nous avons ras-le-bol des guerres, mais nous refusons la capitulation et l'injustice. Nous combattons contre des fanatiques islamistes sanguinaires. Et il est temps que le monde libre se réveille de sa torpeur. L'indifférence, le double jeu, la désinformation et la bêtise humaine sont inadmissibles devant un combat existentiel. Vous savez, les Israéliens sont toujours prêts à combattre et s'il le faut, à mourir pour leur patrie. Toutefois, 76 ans après notre renaissance sur la terre d'Israël, sur notre Adama, nous constatons un nouveau flottement dans les convictions des Israéliens. Nombreux demeurent cyniques sur notre avenir, manifestent leur mécontentement et quittent le pays pour s'installer à l'étranger. Dans les milieux intellectuels, nous constatons, comme chez des anciens généraux et leaders politiques, que l'amertume et la déception l'emportent largement. Ils se présentent comme des prophètes de malheur et prédisent la fin de l'État sioniste, tandis que certains médias suivent cette ligne et rabâchent les mêmes slogans. Et pourtant, nous sommes fiers d'avoir le privilège d'appartenir à cette génération qui a vu Israël en marche, celle qui a observé l'accomplissement de gigantesques projets dans tous les secteurs et domaines. Nous avons eu le privilège de suivre l'aventure d'un peuple hors du commun, capable de faire des miracles, de fleurir le désert, de forger une société, de renouveler une langue, construire un pays fort et moderne, malgré les nombreuses difficultés et les menaces existentielle. Donc ce peuple est capable d'affronter tous les obstacles et s'unir. L'écrasante majorité est heureuse et préfère vivre dans son propre pays plutôt qu'à l'étranger. Alors, devant les grands défis, nous pouvons toujours compter sur le soutien des communautés juives à travers le monde, particulièrement celle de France. Alors, célébrons donc ensemble notre 76e anniversaire de notre indépendance dans l'espoir de pouvoir relever de nouveaux défis et de vivre des jours meilleurs. Chag Atzmaout Sameach.
Merci beaucoup, Freddy Etan. Effectivement, bon anniversaire à l'État d'Israël. 76 ans déjà. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette matinée. Merci beaucoup, Freddy. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J avec grand plaisir, également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route sur notre chaîne YouTube, Radio J, merci beaucoup. Ne bougez pas, les amis. Justement, on parle de ce Yom Hatzmaout à l'ombre de la guerre. Les Israéliens qui célèbrent depuis hier soir l'anniversaire de leur indépendance, mais sans faste cette année, c'est ce que va nous dire dans quelques instants Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Cette atmosphère, c'est vrai, très particulière de ce Yom Hatzmaout, le premier depuis les massacres antisémites du 7 octobre.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Effectivement, nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, quel est justement le climat, l'ambiance sur place en Israël pour ce jour si particulier de l'indépendance de l'État ?
Mais en fait, tout est différent. Ce 76e anniversaire de l'État d'Israël ne ressemble à aucun autre, même pas au 14 mai 1948. La guerre était là aussi, c'est le seul point commun. Mais il y a 76 ans, elle accompagnait un accomplissement, la réalisation d'un rêve vieux de 19 siècles. Aujourd'hui, la guerre est un rappel, le rappel que rien n'est encore tout à fait accompli quand on oublie à quel point ce pays est précieux pour ceux qui y vivent et pour tous les Juifs dans le monde. Alors cette année, le passage du Yom HaZikaron, le jour du souvenir, au Yom HaAtzmaout, le jour de l'indépendance, n'est pas vraiment un passage. 1533 Israéliens qui auraient dû le célébrer ne sont plus là parce qu'ils ont été assassinés le 7 octobre, parce qu'ils sont tombés au combat pour défendre leur pays contre les monstres sanguinaires du Hamas. Des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont dû quitter leur maison au premier jour de la guerre dans l'ouest du Negev et à la frontière nord attendent encore de rentrer chez eux. 132 Israéliens sont toujours captifs à Gaza et leurs familles ne parviennent plus à compter les heures, ni même les jours d'attente, d'angoisse, de douleur. Pour tous ces Israéliens, il n'y a pas d'indépendance, pas tant que le dernier otage n'aura pas été libéré. Comment, dans ces conditions, avoir le cœur à la fête ? Mais Yom HaAtzmaout, ça n'est pas juste une fête. C'est une célébration de renaissance et de vie. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut faire vivre ce pays et son peuple. Alors, chacun le fait à sa façon. Il y a ceux qui se sont réunis hier soir en famille et qui ne renonceront pas aujourd'hui au traditionnel barbecue. Il y a eu aussi hier soir beaucoup d'événements organisés localement par des associations ou par des synagogues parce qu'il était moins dur de faire ce passage avec des proches et des gens de connaissance et dans un rituel plus familier. Il y a ceux qui ont décidé de planter des arbres en lieu et place de l'allumage des flambeaux pour symboliser l'enracinement et la renaissance. Et puis, les chansons ont aidé. Pas celles des grands spectacles avec profusion de décibels, mais des chansons d'enfants où c'était justement les plus petits qui redonnaient à leurs parents la force et l'envie de chanter, de retrouver leur voix, de se lever. À Jérusalem, mais aussi partout ailleurs dans le pays, c'était comme des petites bulles de joie et de lumière qui ont recommencé à éclairer les rues et qui ont remplacé les feux d'artifice. Personne aujourd'hui en Israël ne célébrera l'indépendance d'un cœur léger, mais tous le feront avec détermination, avec l'espoir dans l'avenir et le retour de jours meilleurs. Ça n'est pas un hasard si l'hymne de l'État d'Israël s'appelle Hatikva, l'espoir.
Merci beaucoup. Merci Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem, pour ses précisions ce matin, effectivement, pour cette journée très particulière. On a l'occasion d'en parler tout au long de cette matinée encore, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Pascal, qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de 8h. Ne bougez pas, dans quelques instants, assez exceptionnellement, il n'y aura pas de revue de la presse israélienne avec les studios Qualita, mais une interview, un invité ce matin, et c'était important pour nous de l'entendre, comme c'est important depuis 7 octobre d'entendre toutes les personnes qui sont en première ligne de cette guerre et ceux qui perdent des proches effectivement depuis 7 mois. Et justement, nous serons avec Ethan Meisel, le papa de Nitai Meisel, 30 ans, un soldat de réserve qui a été tué à Gaza le 24 décembre dernier. Il nous dira voilà comment il veut qu'on se souvienne de son fils avec nous dans quelques instants. Et puis à suivre, l'humour avec Annabelle Nakache, bien sûr, comme tous les mardis, et l'invité de Christophe Barbier ce matin. Son invité est Éric Ciotti, président des Républicains. À tout de suite.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Comme tous les matins, ce mardi 14 mai 2024, jour de Yom Ha'atzmaout, 76 ans de l'État d'Israël, également 220e jour de guerre contre le Hamas. Nitai Meisel et Amichar Ben David en faisant don d'une ambulance pare-balles au Magen David Adom. Au mois de décembre, en effet, Nitai, 30 ans, tombé au combat à Gaza, il servait dans une unité de blindés d'élite. Sa mission, rechercher des otages. Pour en parler et pour lui rendre hommage ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir son père en ligne avec nous. Ethan Meisel, bonjour.
Bonjour.
Votre fils, effectivement, Nitai, a été tué le 24 décembre dernier. C'était un soldat israélo-américain, puisque Nitai est né à Baltimore, aux États-Unis. C'était un soldat de réserve, donc. Mais je crois qu'en fait, vous ignoriez qu'il faisait partie d'une unité d'élite. Il ne vous l'avait pas dit. Hein.
Oui, ça c'est vrai. Il était dans le service régulier, il était dans les tanks. Et puis, aux réserves, aux Milouim, il a été bénévole dans une unité élite, mais à nous, il n'a rien dit. Il a dit qu'il continue d'être dans les tanks, et même dans la guerre, lorsqu'il avait commencé d'être... Il a commencé la guerre le premier jour, déjà au Simchat Torah, on lui a appelé à l'armée, et il a combattu déjà la première semaine. Mais à nous, il a seulement dit qu'il aide à des autres, qu'il fait de la logistique, car il ne voulait pas que nous, on avait peur.
Oui, il ne voulait pas vous inquiéter, en fait.
Oui, ça c'est juste.
Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour lui, justement, ce jour du mois de décembre? Comment il a combattu les terroristes? Est-ce que l'armée vous a donné, justement, quelques détails sur sa mission qu'il était en train d'opérer sur place?
Absolument, oui. Ce jour, on avait d'informations qu'il a quelques bâtiments où il y a des otages, et on a envoyé une mission spéciale du commando pour chercher ces otages. C'était une rue. À deux côtés de la rue, il avait des bâtiments et on ne savait pas où exactement ils seraient, les otages. Et au milieu, dans la rue, il y avait le tank de Nitai qui aidait et donnait du couvert pour les commandos. Et les commandos sont entrés dans les bâtiments et ils ont cherché un appartement après l'autre, une chambre après l'autre. Et au milieu, il y avait le tank de Nitai. Et lui, il est avancé doucement. Et puis, ils ont vu qu'il a un camion au milieu de la route.
Oui.
Ils ont tiré sur cet camion pour vérifier si ça va exploser ou non. Et puis, ça n'est pas explosé. Alors, ils ont avancé jusque là-bas. Et puis... Et les terroristes ont lutté sur le tank RPG. Et ça a tué Nitai immédiatement.
Comment vous avez appris, vous, la nouvelle? Comment ça s'est passé pour vous les jours qui ont suivi? Est-ce que l'armée vous a tout de suite annoncé sa mort? J'imagine que ça a été très brutal. Comment vous l'avez vécu?
Ça s'est passé à 10h le matin. Et à 2h l'après-midi, la même journée, j'étais à la maison, j'ai travaillé de la maison, et il y avait des 3 soldats qui sont venus pour me dire que Nitaï est tombé. Et puis, c'est un choc, bien sûr.
Ouais.
Et là, après, on a envoyé des autres soldats pour notifier ma femme et tous les enfants. Et eux, ils sont venus chez nous à la maison. Et on a été tous étant ensemble, toute la famille était ensemble. Et oui, c'était très dur.
Que représentait justement Israël pour Nitaï et comment vous souhaitez qu'on se souvienne aujourd'hui de lui?
Nitaï aimait beaucoup Israël. Il était toujours, lorsqu'il avait du temps, il était dehors, il a fait des excursions dans le désert, il a habité à la fin à Be'er Sheva, au sud. Il a fait des excursions dans le désert. Il a toujours fait attention de ramasser de la poubelle, s'il a vu. Il avait toujours un sac de plastique avec lui pour ramasser s'il y a quelque chose qui ne doit pas être là-bas. Et chaque journée, lorsqu'il avait du temps, il a été dans une oasis pour écouter de la musique, et être dans la nature.
Ouais. C'est vrai qu'on a pu lire aussi sur le site du Magen David Adom, puisqu'il était volontaire depuis 2009 au sein du MDA, il ne cessait jamais de sourire, c'était sa marque de fabrique, il souriait beaucoup.
Il a commencé d'être bénévole de l'âge de 16 ans, et il avait toujours, ça c'était quelque chose de très très important pour lui. On a même reçu plus tard WhatsApp qu'il a envoyé à quelqu'un qui n'était pas sûr s'il veut faire de la bénévole ou non. Et Nitaï a lui écrit pour moi, c'est l'activité la plus importante que je fais dans ma vie. D'être là pour des autres et aider à des autres.
Et aujourd'hui, vous avez décidé avec votre famille, avec les amis de Nitaï, justement, de lui rendre hommage en achetant, c'est très symbolique, une ambulance du MDA, hein, c'est ça, hein?
Exactement, car pour lui, on a cherché quelque chose pour continuer la fête, comme il était dans sa vie. Et dans sa vie, c'était très important pour lui d'être dans le MDA. Alors, on a décidé de faire aussi quelque chose qui continue sa activité.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Ethan Mezel, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio G. Évidemment, on peut faire un don en se rendant sur le site du Magen David Adom pour participer notamment à l'achat de cette ambulance en hommage à votre fils. Merci beaucoup, Ethan, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Radio G.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio G.
Merci d'être avec nous sur Radio J ce mardi 14 mai. Dans quelques instants, Annabelle Nakache, bien sûr, à l'humour comme chaque mardi matin, est l'invité de Christophe Barbier. Aujourd'hui, Éric Ciotti, président des Républicains. Et puis vous l'entendez, cette douce musique. Et oui, ça y est, le festival de Cannes s'ouvre ce mardi 14 mai pour une durée de 11 jours, 77e édition, et jusqu'au 25 mai, effectivement. Donc l'un des plus célèbres festivals du cinéma qui se tient à Cannes. Alors quelques éléments à connaître. Cette année, 22 longs métrages ont été sélectionnés en compétition officielle pour pouvoir prétendre remporter la Palme d'Or, sacre ultime de ce rendez-vous cinématographique. Et puis, outre la sélection officielle, les films en lice pour remporter la Palme d'Or, d'autres peuvent être récompensés au Festival de Cannes. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler cette semaine sur Radio J.
Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc, merci à vous.
À tout à l'heure. Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.fr. mda.org.
mda-france.org.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Le 6-9, Radio-J.
Radio-J. Merci d'être avec nous sur Radio-J. Oui, nous sommes en direct. Christophe Barbier va s'installer dans quelques instants aux côtés de son invité, Éric Ciotti, président des Républicains. Bonjour messieurs.
Bonjour Ilana.
Et merci d'être avec nous effectivement ce matin. Mais d'abord, elle est habillée de lumière ce matin, tout en doré, tout en or. C'est Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle.
Bonjour, joyeux anniversaire avec moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Israël. 76 ans. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps de faire toutes ces dents. Voilà, 76 ans, on lui souhaite bien évidemment de la force, du courage, de la joie malgré tout ce qui se passe, de la sécurité et de la sécurité et de la sécurité. Ça tombe bien en parlant de sécurité. Ce matin, nous recevons notre Robocop de la Côte d'Azur, the President of the Republicans. S'il était un Avenger, ce serait Autorité Man, Mr. Éric Ciotti. Là où la délinquance frappe, bim, à choc d'autorité et de sévérité dans ta gueule.
Vous avez l'air enthousiaste ce matin.
Oui, c'est vrai. Première raison, la dernière fois que vous étiez dans ce studio, Monsieur Ciotti, ma chronique Israël, la vraie insoumise, a eu beaucoup de succès. Bon, c'était une chronique émouvante. C'est trois jours après le 7 octobre. Elle a fait plus d'un million de vues à travers le monde et elle a tellement tourné que les gens me l'ont même envoyé à moi en me disant t'as vu, elle parle vachement bien. Bah ouais, merci. Deuxième raison, la teneur de ma chronique était trop solennelle pour que je puisse vous imiter, donc je me rattrape aujourd'hui. Je vous prends par surprise, attention, ça peut tomber à tout moment.
Alors Annabelle, vous avez profité du pont de l'Ascension?
Oui, maintenant que j'ai des enfants en bas âge, je comprends pourquoi on appelle ça un pont, parce qu'avec des enfants, bah, t'as littéralement envie de te jeter du pont. Quand tu deviens parent, les vacances, c'est plus jamais les mêmes, parce qu'à cette période, tu deviens animateur de centre de loisirs bénévoles ou de centre de détention, en fonction de comment se comportent les gamins. Oui, j'en ai profité. Enfin, mes enfants en ont profité. En parent parfait, j'ai voulu leur proposer un panel d'activités pédagogiques afin d'éviter les écrans. En trois jours, on a fait zoo, aquarium, glace, bowling, parc d'attractions, mini-golf, churros, shopping. Le tout en essayant de garder la main de mon fils dans la mienne parce qu'à trois ans, il veut déjà faire le mur. Il veut qu'on joue à policier contre narcotrafiquant. Traduction, il veut que je lui cours après. Ma vie est une opération XXL géante. Ah ouais, bah oui, au zoo, si je le lâche, moi, c'est cage du tic, fait divers direct. Donc évidemment, je marche avec un truc qui se débat et un fond sonore qui me hurle dans les oreilles. C'est une expérience sensorielle divine.
Alors en parlant d'expérience, justement, il paraît que vous avez vécu quelque chose de très fort ce week-end, Annabelle.
C'est vrai, comment vous savez ça, vous?
Bah, je sais tout.
Allez, je suis gênée là, je suis obligée de vous le dire maintenant. Bon, ok, bah, je peux vous le dire, j'ai vécu ma première fois. Bah ouais, j'avais entendu parler de cette expérience de plaisir insolite, mais moi j'ai jamais osé le faire. Bon bah voilà, j'ai voté à l'Eurovision, ok. Et pas toute seule, on était plusieurs.
Et pas qu'une fois, je l'ai fait plusieurs fois d'affilée. Et vas-y que je vote, et vas-y que je revote, et vas-y que je re-revote. C'est excitant, vous aussi, non?
Oui. Ouais, c'est vrai, on est quelques-uns à avoir claqué nos 15-20 euros ce week-end pour voter pour Eden Golan, l'israélienne, et fermer la bouche à tous les antisémites. Et après on dit qu'on est radins, franchement. Et d'ailleurs, le service téléphonique de l'Eurovision, il est efficace. Bonjour, c'est l'Eurovision. Vous avez voté pour Israël, bisous. Ah bah, si l'Europe pouvait fonctionner de manière aussi efficace, ce serait bien. Parlez-en à votre candidat François-Xavier Bellamy. Eden Golan a fini cinquième. C'était pas évident parce que cette année, l'Eurovision, c'était vision d'horreur. Ils avaient changé le règlement.
Votre attention, s'il vous plaît. Cette année, on a changé les règles. Le premier jury qui donne des points à Israël a perdu. Voilà. Et le premier candidat qui s'affiche à côté de la candidate israélienne a perdu aussi.
Donc maintenant, on a le droit de dire sans complexe qu'on veut pas soutenir quelqu'un juste à cause de ses origines. Ça a un nom, ça s'appelle comment déjà le truc qui se passe dans les campus, la connerie, voilà, c'est ça. Donc une jeune fille de 20 ans qui voulait juste chanter a besoin de 100 voitures de police pour la protéger des islamistes et des écolos blondinettes à kéfier qui protègent les ours polaires parce que soi-disant on n'est pas d'accord avec la politique de son gouvernement. Vous avez déjà vu des Russes, des Iraniennes, des Chinoises ou des Américaines se faire escorter parce qu'on n'était pas d'accord avec la politique de leur gouvernement?
Eh ben non.
C'est bien ce qui me semblait, hein. C'est le petit côté VIP plus carré hors des juifs. Et comme Eden Golan a fini 5e, ils ont fait une soirée funéraille chez LFI, hein, avec la candidate irlandaise. C'est un truc de malade. Bon, faut aussi féliciter la France avec Slimane qui a fini 4e et sa chanson coécrite avec les frères Meir et Yaakov Salah. Ça doit être deux Suédois, je crois. Voilà un beau message d'espoir parce que nous, quand on voit ce torrent de haine qu'a reçu Eden Golan et qui, par extension, nous étouffe, eh ben, on a juste envie que ça s'arrête, ce cauchemar, et qu'on nous chante.
J'entends ta souffrance, tous tes mots je les pense, désolé de mon absence. Mon amour, te souviens-tu de notre histoire? On avait encore l'espoir, avant que tout ça ne devienne noir. Je t'aime, même si je te le dis pas. Et de cette rance intolérance qui recommençait. Oui, j'entends ta peine. On en fait quoi? Est-ce que l'on s'aime ou pas?
Merci beaucoup, Annabelle Nakache. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram Annabelle Show et le jeudi sur Radio J. Christophe Barbier tout de suite et son invité Eric Ciotti.
Les grands débats commencent sur Radio J.
Sur Radio J.
Éric Ciotti, bonjour,
bonjour
et bienvenue. Nous allons parler du programme de François-Xavier Bellamy qui sera dévoilé en détail cet après-midi. Un mot sur ce qui s'est passé cette nuit à Nouméa, des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'à Paris, on vote et vos sénateurs ont voté pour un élargissement du corps électoral après des années où il était gelé pour les référendums. Vous craignez un embrasement ?
Il y a un risque parce que derrière ces actes violents que je condamne, il y a eu 200 incendies cette nuit, il y a eu des tirs, c'est le haut-commissaire qui vient de l'indiquer, contre les gendarmes, à l'arme des tirs tendus, avec des armes. Donc il y a naturellement une inquiétude, ce risque d'embrasement et la nécessité de faire valoir le droit, la loi. Nous allons voter cet après-midi à l'Assemblée nationale et je voterai l'élargissement de ce corps électoral dans la réforme constitutionnelle. J'espère d'ailleurs que le président de la République ne cédera pas à la violence, à la menace, en convoquant le Congrès de la République, parce que s'il ne le faisait pas, il donnerait quelque part prise à ces actes de violence qui veulent prendre en otage la République.
Il veut rassembler tous les acteurs de ce drame néo-calédonien à Paris dans les semaines qui viennent. C'est une mesure d'apaisement.
Si nous votons, ce que j'espère et ce que je ferai personnellement, et ce que feront tous les députés républicains, si nous votons conforme la proposition, le projet de loi constitutionnelle, eh bien, il faut convoquer le Congrès. Il doit et il peut y avoir des discussions, des débats, mais le Parlement s'est prononcé. Maintenant, nous réclamons la convocation du Congrès. Vous savez, le processus en Nouvelle-Calédonie, il vise à renouer avec une forme de démocratie. On a exclu du corps électoral 25 000 électeurs. Malgré cette exclusion, par trois fois, les Néo-Calédoniens se sont prononcés pour leur attachement à la France. C'est le terme des accords de Matignon qui avait été passé sous Michel Rocard. Aujourd'hui, le peuple a parlé. Eh bien, il faut l'écouter, il faut l'entendre et il faut en tirer les conclusions.
Annabelle le disait, week-end inquiétant pour la communauté juive, les manifestations autour de l'Eurovision à Malmö, une manifestation néo-nazie à Paris, que faire ?
La fermeté. Nous sommes aujourd'hui dans une forme de terreur qui est entretenue, de haine d'Israël et derrière de haine des Juifs, une résurgence d'un antisémitisme insupportable. On a vu, vous venez de le dire, dans un cadre humoristique, ce qui s'est passé dans la compétition de l'Eurovision avec Eden Golan, qui a été prise alors qu'elle est admirable, qu'elle a une voix magnifique, que c'est une jeune femme pleine d'espérance, c'est une artiste. Elle a été attaquée, elle a été menacée. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous alors que nous avons malheureusement célébré la semaine dernière commémorer l'histoire tragique de la Shoah, qui est une plaie infâme sur l'humanité, eh bien, on revient 75 ans plus tard avec les mêmes mots, avec les mêmes menaces. Donc, il faut une sanction implacable. Les actes antisémites ont augmenté de 1000% depuis le 7 octobre. Le Premier ministre a rappelé que sur les trois premiers mois de l'année, on était à près de 400% d'augmentation. Il faut donc agir, il ne faut rien laisser passer. Il y a des actes, des paroles antisémites dès l'école. Il faut les sanctionner, il faut être intransigeant et puis il faudra un jour aussi s'attaquer à ceux qui entretiennent ce climat. Et
les politiques notamment, et s'attaquer comment?
Et notamment, moi je dis que la question de la dissolution de la France insoumise est posée, parce que ce parti ne peut pas continuer à semer la haine, à propager la haine, à instrumentaliser ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et à développer des propos qui ont des conséquences extrêmement fortes. Donc si cette dérive continue, si on va dans cette escalade verbale qu'entretient Monsieur Mélenchon avec des degrés de plus en plus élevés, oui, je le dis, il faudra aller vers la dissolution de la France insoumise.
C'est un acte extrêmement fort. Historiquement, il y a très peu d'exemples.
C'est un acte extrêmement fort, mais on ne peut pas transiger avec des partis qui ne sont pas clairs sur l'antisémitisme.
Il y a aussi l'extrême droite, cette manif néo-nazie à Paris, interdite par le préfet, rétablie par la justice. Un député...
Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi cette manifestation a été autorisée par la justice.
Liberté d'expression,
il y a, des décisions qui m'échappent. Je le dis très clairement, le préfet de police avait bien fait d'interdire cette manifestation. Les faits lui ont donné raison et quelquefois la justice devrait s'inspirer aussi de principes de réalité et de bon sens.
Faut-il interdire les emblèmes comme la croix celtique? C'est ce que propose un député socialiste.
Il faut interdire tous ceux qui participent de la résurgence de l'antisémitisme à quelque niveau, quelque côté de l'échiquier politique qu'il se situe.
Alors cet après-midi à 14h sera dévoilé le programme de François-Xavier Bellamy, votre candidat pour les européennes. Ça a changé son action à Sciences Po où il est allé se dresser face aux députés Les Filous et Boyard contre la rue antisémite?
Ça peut être changé dans le regard médiatique, mais moi je connais François-Xavier Bellamy, c'est un homme de conviction, de courage, c'est un homme compétent, c'est un homme responsable.
Mais aussi de réflexion,
Qui n'a jamais transigé, ce n'était pas un coup d'éclat. Défendre la liberté d'enseignement, défendre l'enseignement supérieur pris en otage par des extrémistes qui sont eux-mêmes instrumentalisés par un parti politique. Si on peut parler de parti.
LFI encore.
En l'occurrence, LFI à nouveau, eh bien... Il a eu ce courage, on lui connaît, ceux qui le connaissent, c'est mon cas, lui voit au quotidien ce courage. C'est un candidat, vous savez, dans ce chaos médiatique, dans ce duo qu'essaie d'installer en permanence le président de la République entre Madame Le Pen et lui, on voit bien... Le débat Attal-Bardella, peut-être maintenant, c'est des fuites qui viennent de l'Élysée, le débat Le Pen-Macron. Qu'est-ce que cache tout cela? C'est installer un duo. Mais ce duo, c'est le duo de l'impuissance depuis des années, parce qu'il paralyse la vie politique française. Il y a ceux qui sont, qui quelque part aujourd'hui sont opposés à Emmanuel Macron et sont tentés par le vote Bardella, parce que il donne le sentiment d'être l'opposant le plus fort. Et puis, il y a ceux qui s'élèvent contre la menace du Rassemblement national. Au milieu, il y a une voie de responsabilité, de l'action. Nous le demandons dans ce projet, nous le démontrons. Nous avons des propositions concrètes, précises, responsables, chiffrées. La France est en train de sombrer. Elle est en train de sombrer au plan économique, elle est en train de sombrer au plan sécuritaire, on en a parlé sur les actes antisémites, elle est en train de sombrer du fait d'une immigration incontrôlée.
Et l'Europe peut être la solution.
Face à ça, on a que ce cinéma, ce théâtre, la vie politique réduite à des slogans, à des tweets, à des birréels, tout ça n'est pas sérieux.
25%.
Il faut se reprendre, et il faut se reprendre, et nous avons peut-être un rôle difficile, c'est le rôle de dire la vérité, c'est le rôle de porter un projet qui n'est pas un projet de paillettes, mais qui est un projet de responsabilité.
25% de fonctionnaires européens en moins, par exemple. Est-ce que ça peut aider?
Mais bien sûr, parce que un fonctionnaire produit toujours des normes. C'est d'ailleurs le même problème en France. On le voit, on a aujourd'hui une explosion du nombre d'agents publics. Depuis 30 ans, on a 2 millions d'agents publics en plus.
Et ils font leur travail, et ils produisent de la norme.
Ils font leur travail, mais ils produisent de la norme. Donc, c'est aux politiques de reprendre le contrôle, de faire en sorte que nous soyons dans une Europe qui allège les contraintes. Nous ne voulons pas de l'Europe fédérale de M. Macron, celle qui, quelque part, ferait disparaître la France. Nous ne voulons pas aussi de ceux qui voudraient faire disparaître l'Europe. Nous avons la nécessité d'avoir des réponses européennes sur certains niveaux. Je pense en particulier à des programmes de lutte contre le cancer, sur des programmes sanitaires, sur des programmes aussi de défense, où nous avons besoin, sur certains programmes, de mutualiser...
Par exemple, étendre la protection nucléaire française à l'Europe ?
Surtout pas. Surtout pas, ça voudrait
nous
dire...
Nous décidons de l'usage, mais nous protégeons tout le monde.
Surtout pas, ça voudrait dire que si on mutualisait l'usage de l'arme nucléaire française, c'est à la France de décider l'emploi de cette arme. Ça a toujours été la doctrine gaulliste.
Mais on protège nos voisins.
Tous les présidents de la République ont adopté cette doctrine.
Mais le parapluie peut s'étendre.
D'ailleurs, ne le disons pas. C'est à la France de décider dans le secret... Le président aurait pu parler d'ambiguïté stratégique. Ne dévoilons pas nos cartes. Les intérêts vitaux de la nation, c'est à la France d'apprécier quand ils sont mis en cause. Mais si nous mutualisons l'arme nucléaire, la France disparaîtra. Ce qui fait la grandeur de la France, ce qui fait qu'elle a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est justement parce que c'est une grande puissance indépendante qui a la capacité à se défendre et qui a la capacité à porter un coup terrible chez ceux qui voudraient l'attaquer.
Vous voulez préparer les jeunes Européens à la défense de leur pays, c'est ce que dit le programme. Ça veut dire quoi ? Une conscription européenne ? Un service national européen ?
Ça veut dire la capacité aussi à donner du temps pour son pays. Nous voulons réarmer l'Europe. Quand je dis une Europe qui se défend mieux, c'est pas la mutualisation des forces. Ça veut dire que chaque nation doit se réarmer. Nous proposons un effort pour aller à 3% du PIB.
Partout.
À minima, partout. Aujourd'hui, il est réclamé 2% simplement pour les membres de l'OTAN. La France est à peine à 1,9% de sa richesse nationale consacrée à la défense. C'est beaucoup trop peu aujourd'hui, donc il faut réarmer nos nations. Les menaces sont là. Il y a la menace venant de la Russie. Il y a la menace islamiste qui est propagée notamment par des vecteurs d'immigration qui ont été totalement incontrôlés par une Europe qui a été beaucoup trop naïve, notamment sous l'influence allemande. C'est tout cela. Nous voulons une Europe réarmée. Nous voulons une Europe qui soit puissante face à la Chine et aux États-Unis, qui ne soit pas le dindon de la farce dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est l'Europe qui a payé l'addition. Les États-Unis se sont enrichis sur le conflit, et nous sommes menacés et nous en avons des conséquences économiques très lourdes.
Un bref mot pour finir de l'interview d'Emmanuel Macron dans la Tribune, où il disait s'il y a une motion de censure LR à l'automne, il peut y avoir une solution, ça dépendra des circonstances. Comment vous interprétez ce mot circonstance ? Il veut discuter avec vous d'une majorité ?
Je ne sais pas, on est dans le en même temps, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, je ne comprends pas, mais il n'y a pas que sur ce sujet que je ne comprends pas. Il faudrait que le président de la République fasse un peu une lecture plus claire de sa pensée. C'est toujours le en même temps, donc on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il dit. Nous, ce que nous disons sur cette question, nous avons été très clairs, si le budget ne nous convient pas, si les impôts augmentent, si le modèle de santé et touchés notamment, motion nous censurerons ce gouvernement, c'est très clair.
Éric Ciotti, merci et bonne journée.
Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité, Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie.
Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Réfoy, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Bonjour, c'est Serge.
Bonjour, c'est Nicolas.
On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J.
Au programme médecine, chirurgie,
bien-être
et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils
sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Vous
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Henri-Gozlan.
Assib Créteil.
Assib Créteil. 01 43 77 01 60.